La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bienvenue dans cette 10e émission, déjà comme le temps passe, de la Semaine de l'Art. Une émission que vous pouvez bien sûr écouter à partir du site La Tribune de l'Art et que vous pourrez, si vous êtes abonné, télécharger dans les prochains jours pour l'écouter sur en podcast, sur un MP3 comme l'on dit. Notre invité aujourd'hui est Olivier de Rohan. Bonjour. Olivier de Rohan, donc vous êtes président de beaucoup d'associations, vous avez été président de beaucoup d'associations, vous êtes un président assez multiples, et actuellement, vous êtes surtout président de la Sauvegarde de l'Art Français, une association de protection du patrimoine, vous nous parlez de ça là tout à l'heure, et de beaucoup d'autres sujets.
La chronique. Une fois de plus, un tableau attribué sans aucun fondement à un grand peintre fait l'actualité. Le musée de Draguignan va en effet voir revenir sur ses cimaises une toile retrouvée grâce à l'action de l'Office central de lutte contre les trafics de biens culturels, également connu sous le nom d'OCBC. Cette toile est présentée par presque tous les journaux comme une œuvre de Rembrandt, ce qui est tout simplement faux. Pour s'en persuader, l'enquête n'est pas bien compliquée. D'abord, cette peinture n'est nulle part répertoriée comme authentique dans la littérature sérieuse consacrée à Rembrandt, ce qui devrait déjà mettre la puce à l'oreille. Ensuite, la présence d'un Rembrandt dans un petit musée français aurait été connue, semble-t-il, et encore davantage parce qu'il avait été volé. Or, personne n'avait jamais entendu parler d'un Rembrandt à Draguignan, encore moins d'un Rembrandt volé. Le simple examen de la photographie entraîne d'ailleurs un doute. Comme l'avait déjà très bien remarqué Vincent Noz dans Libération, l'œuvre ne ressemble que superficiellement à un Rembrandt. Il suffisait enfin de se référer à un spécialiste, à un vrai, pas à une source proche de l'enquête, comme le dit l'AFP. Un simple coup de fil à Jacques Foucard, qui connaissait l'œuvre, suffisait à réduire à néant l'hypothèse d'un identique Rembrandt. Pourquoi cette frénésie des médias à faire des titres sensationnels sur des informations fausses ? On ne compte plus les fausses coupes régulièrement publiées sur les grands peintres. Rappelons-nous, par exemple, les Caravage de Loche. Copies anciennes, certes, mais qui n'ont jamais été de Caravage. La municipalité, pourtant, continue à les mettre en avant sur son site internet pour attirer les touristes, allant jusqu'à faire croire, en utilisant des citations sorties de leur contexte, qu'Arnaud Brojon de Lavernier entérine cette attribution, alors qu'il pense bien sûr, lui aussi, que ce sont des copies. Caravage, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, est un habitué de ces mystifications. Quand ce ne sont pas de ces soi-disant dessins qui sont retrouvés au Palazzo Sforzesco à Milan, des peintures supposées de sa main, en réalité souvent des croûtes, ou des œuvres sans rapport avec lui, qui resurgissent régulièrement ces dernières années. On rappellera aussi le grotesque épisode de la soi-disant tête de l'origine du monde, de Courbet, ou la redécouverte de nouveau Léonard de Vinci, parfois d'une laideur ahurissante, et qui n'ont absolument aucune chance d'être de cet artiste. Tout cela est agaçant et témoigne de l'étrange statut de l'histoire de l'art en France. Comment peut-on prendre au sérieux une discipline dont on estime que n'importe qui peut l'enseigner ? À l'école, en effet, au collège ou au lycée, l'histoire de l'art, qui a réussi à intégrer un peu les programmes, est enseignée par les professeurs d'autres disciplines, un peu comme si l'on demandait à un professeur d'histoire de donner des cours de maths. Si n'importe qui peut enseigner l'histoire de l'art, il n'est pas étonnant que n'importe qui puisse également attribuer des tableaux, et qu'une source proche de l'enquête devienne aux yeux de certains aussi crédible que le meilleur connaisseur français de peinture nordique, et particulièrement de la peinture nordique conservée dans les musées. Pour terminer, Alain Corcos, sur le site Arrêt sur Image, vient de publier un article où il nous cite très gentiment à ce propos. Et il conclut par « Un Rembrandt volé il y a 15 ans à Draguignan a été retrouvé à Nice, est un tantinet plus vendeur que, une croûte à la manière de Rembrandt ne valant pas un copec, volé il y a 15 ans à Draguignan, a été retrouvé à Nice. » Un peu excessif sans doute, car l'œuvre n'est pas nulle, mais très abusant.
Je me tourne donc vers notre invité, Olivier de Rohan. Racontez-nous un peu votre parcours. Quand je disais que vous avez été président de beaucoup d'associations, par exemple, vous étiez président des Amis de Versailles pendant très longtemps.
Oui, bah, n'exagérons pas, je ne suis pas président de tant d'associations que cela, mais effectivement, c'était en 1987, Pierre Lemoyne, qui venait de quitter le poste de conservateur en chef du château de Versailles, est venu me voir en me disant, voilà, nous avons pensé à vous pour présider la Société des Amis de Versailles, dont je dois dire, je n'avais jusque-là encore jamais entendu parler. Je connaissais mal Versailles, mais pas du tout sa Société d'Amis, et il m'a expliqué que ils avaient fait un petit... comment dire, ils étaient un peu renseignés, qu'il leur paraissait que je pouvais convenir. Je me suis donc arrivé, elle était très honorée. Enfin, d'abord j'ai hésité à répondre oui, parce qu'à l'époque, il fallait que je gagne ma vie, et que je me suis dit, je n'aurais pas le temps de m'en occuper. Pierre Lemoyne m'a assuré que je n'aurais rien à faire, que tous mes frais seraient défrayés, etc. etc. Je n'en ai pas cru un mot. Lui, il croyait, très sincèrement. Mais je me suis dit, au fond, il y a une aventure, le train passe, je saute dedans, je saute pas dedans, j'ai sauté dedans. Et bien, ça m'a entraîné beaucoup plus loin que je ne pensais, mais je ne le regrette certainement pas. Bon, alors, pour ce qui est des autres associations, il est certain que quand on a, quand ça n'a pas trop mal marché avec la première, eh bien, les gens cherchent désespérément des présidents d'associations, on vous en propose, mais je n'en ai pas tellement. À part la présidence de la société des amis de l'hôtel de la Marine, que j'ai accepté avec très grand plaisir, en pensant que ce serait une sinécure, ça a été tout à fait le contraire.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Et la présidence de la sauvegarde de la Française, que je n'ai pu prendre qu'après la présidence de la Société des Amis de...
En fait, c'est parce que vous êtes président d'associations prestigieuses qu'on a l'impression que vous êtes beaucoup président. Mais finalement, c'est trois associations principalement.
Vous êtes trop bon.
Voilà. Donc, sur Versailles, revenons un petit peu effectivement à Versailles. Vous avez été... D'abord, les Amis de Versailles, qu'est-ce qu'ils font, les Amis de Versailles? Peut-être dire un petit mot des Amis de Versailles, puisque c'est quand même une société assez importante et dont il faut peut-être dire l'activité.
Les Amis de Versailles sont la deuxième société d'amis de musées en France, historiquement. La première, c'est les Amis du Louvre, créée en 1900, et la Société des Amis de Versailles a été créée en 1907 à la demande de Pierre Donnalac. À l'époque, Versailles était un petit peu hors jeu. Les gens n'y allaient pas, on ne savait pas très bien où c'était, ce qui s'y passait. Enfin, c'était pas complètement ignoré, mais je veux dire que c'était pas à la mode. Et donc, Donnalac a un petit peu hésité à faire appel au concours de gens prestigieux pour donner du lustre à son château. Il a un peu hésité, mais il l'a fait, et alors il y a eu tout un tas de gens très très importants là-dedans, qui ont, j'allais dire, fait tous les bruits qu'il fallait pour donner aux gens envie d'aller visiter Versailles, pour faire qu'on fasse des conférences intéressantes à ce propos, et puis aussi pour aider à enrichir un petit peu le musée. Mais ce n'est qu'après la guerre de 40 qu'a été entrepris le remeublement de Versailles tel que l'avait souhaité Pierre Donnalac, d'ailleurs 50 ans auparavant, et ses successeurs, grâce essentiellement à Gérald de Van der Kemp. Et alors là, il y a eu un grand concours pour essayer d'obtenir à la fois des dons d'œuvres qui venaient de Versailles ou de trouver de l'argent pour en acquérir. Et ça a été le premier rôle de la Société des Amis de Versailles, donc d'aider à faire revenir, enfin enrichir le château, le musée.
Parmi les œuvres que vous avez pu faire acquérir par les Amis de Versailles lors de votre présidence, quelles sont celles que vous retenez particulièrement, une ou deux ou trois œuvres qui vous ont particulièrement marqué, ou bien des anecdotes peut-être pour les achats qui ont été peut-être un peu compliqués? Est-ce que vous en...
Écoutez, là, ce serait interminable, parce qu'en 25 ans, tel qu'en a témoigné là, l'exposition que nous avons fait pour le centenaire de notre association, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose chaque année, mais quand on accumule ça au bout de 25 ans, ça fait beaucoup. Alors, la première œuvre, je dois dire, c'était le jour même où on m'a fait l'honneur de me nommer président des Amis de Versailles, c'était le jour où la société Louis Vuitton Mouettensi a été créée. Henri Racamier, président, a annoncé à la radio à 6h du soir la création de Louis Vuitton Mouettensi. Il donnait le soir même, il avait subventionné Atis, que l'on donnait à Versailles, une première, suivie d'un dîner, et en sortant du dîner, j'avais l'honneur d'être, étant un de ses collaborateurs, je lui ai dit, écoutez, voilà, je viens d'être nommé président de la Société des Amis de Versailles, nous passons dans une pièce, et il me dit, écoutez, maintenant que vous avez cette responsabilité, j'espère que vous allez mettre au fin ce scandale d'avoir une pièce vide comme celle-ci. Bien. Là-dessus, je ne dis pas grand-chose. Le lendemain, le conservateur, que je n'avais jamais vu, me dit, je suis très gêné de vous téléphoner, mais je voudrais savoir si vous pourriez m'offrir une banquette de billard, parce que si nous ne l'achetons pas aujourd'hui, elle va partir pour les États-Unis. Je lui dis, c'est pour mettre dans quelle pièce? Et il me cite précisément la pièce qu'Henri Racamier m'avait demandé de meubler. Alors je lui ai dit, il m'a dit, avez-vous l'argent pour l'acheter? Je lui ai dit, je n'en sais rien, mais je vais vous l'offrir quand même. J'ai donc téléphoné à Henri Racamier, et je lui ai dit, vous m'avez demandé de remeubler cette pièce, j'ai suivi vos instructions, si vous me donnez, je ne sais plus combien, c'était 50 000 francs d'aujourd'hui, 50 000 euros, pardon, ce sera fait. Un quart d'heure après, le chèque était sur ma table. Donc ça, c'est mon premier bon souvenir, très bon souvenir, je veux dire. Un deuxième a été, je me souviens, une grande société française m'avait remis un chèque qui était de je ne sais jamais combien ça ferait. Ça ferait, disons...
Vous pouvez le dire en francs, hein, les auditeurs...
Mettons 150 000 euros pour faire mon marché. Et il y avait, à l'époque, c'était des antiquaires exposaient au Grand Palais. Et il y avait 3 ou 4 choses qui auraient pu intéresser Versailles, des chaises, etc. Et je suis tombé en arrêt devant le service qui avait été offert par Louis XV à Madame du Barry. Alors j'ai téléphoné au Pierre Lemoine, il m'a dit « Oh non, la porcelaine, il ne faut pas acheter ça ». J'ai téléphoné à ma vice-présidente, Mme de Rothschild, qui m'a dit la même chose. Je leur ai dit « Écoutez, venez voir quand même ». Ils sont venus et ils m'ont dit « Il n'y a pas de question, c'est ça qu'il faut acheter ». Donc j'avais l'argent pour le faire, je me suis assis à la table de l'antiquaire, je lui dis « Je viens vous acheter votre service ». Il me regarde un peu étonné, je lui fais un chèque et il me dit « C'est pour le livrer où ?» Je dis « À Versailles ». Le roi n'était pas mon cousin, je peux vous dire. Deuxième bon souvenir, le troisième peut-être, ça a été l'achat de la célèbre commode Pinault, où alors là, je me souviens encore, cette commode, j'étais en train de tailler mes rosiers, donc Pierre Arizoli Clémentel me téléphone et me dit « Écoutez, voilà, je vais avoir votre opinion sur la commode qui est actuellement en vente chez Christie's. Vous pouvez aller la voir tout de suite à Paris. » Je suis descendu de mon échelle, je suis allé voir la commode, j'ai vu une grosse chose très noire.
Rappelez-nous cette commode, en fait.
C'était, justement, là, c'est l'histoire de la commode qui est intéressante. C'est une commode qui avait été achetée, qui venait de la bibliothèque du roi Louis XVI, qui avait, par Yesner, la commode achetée par William Beckford pendant la Révolution, envoyé chez lui à Fontainebleau, offert par lui à sa fille, la duchesse de Hamilton, il y a une grande vente à Hamilton à la fin du XIXe siècle, racheté là par les Rothschild autrichiens, volé aux Rothschild autrichiens par les nazis, et ça avait atterri à l'époque au musée des Beaux-Arts de Vienne. Et là, retournement de situation, le gouvernement de l'époque décide de rendre aux Rothschild ce qu'on leur avait volé, ce qui était assez légitime. Et alors, les Rothschild l'ont mis en vente. Alors j'ai essayé, quand je vois la commode, je dis à Pierre Rizzoli, mais écoutez, c'est évident qu'il faut la racheter. Il me dit, oui, l'ennui, c'est qu'il n'y a plus un sou. Nous sommes au mois de juin, et en général, les crédits de l'année sont déjà dépensés au mois de juin. Alors, nous sommes convenus de nous débrouiller ensemble, et je dois dire que ça a été quelque chose de très très amusant, parce que il a fallu faire toute une campagne de presse, écrire les articles, les livrer aux journaux. Comme toujours, pour que ça intéresse la presse française, je vous demande pardon, vous n'étiez pas là à l'époque, si vous aviez été là, tout aurait changé. Mais à l'époque, il fallait passer inévitablement par l'Angleterre et les États-Unis pour avoir un article dans la presse française. Pour d'autres raisons, je connaissais la technique. J'ai donc écrit un article dans un journal anglais, écrit par moi-même, et c'est revenu évidemment en boomerang en France, et ça a permis d'attirer l'attention. Mais le prix de la commode était évalué à l'époque, en millions de francs, était évalué entre 20 millions et l'estimation basse, et 25 millions l'estimation.
3 millions d'euros et 3 millions et demi d'euros à peu près.
Voilà, c'est ça, l'estimation haute. J'ai demandé à celui qui est mon successeur, Roland de Lépée, qui connaît bien les prix des choses. Il m'a dit, écoute, il faudrait quand même calculer 4 millions. J'ai demandé au Rothschild directement par des gens de leur famille qui ont répondu que si je pouvais l'acheter directement à ce prix-là. Ils ont préféré aller en vente publique. Alors là, il y a eu des moments grandioses, je dois dire, parce que il a fallu trouver de l'argent. Alors, nous avons eu la chance qu'à ce moment-là, les amis du Louvre refusent d'acheter un objet que je pourrais citer, mais si les amis du Louvre avaient mis une très grosse somme, l'équivalent de 1,5 million d'euros, l'État s'apprêtait à mettre la même somme. Par chance, l'objet a été refusé. Je dois dire que j'avais voté contre.
Dites-nous quel objet c'était.
Oh, c'était tout. Bon, c'est pas très important. Bon. Je ne le dis pas, mais c'est un objet qui à l'époque avait été déclaré faux, qui finalement a été offert au Louvre et qui y est. Donc il est devenu vrai depuis qu'on l'a offert.
Vous me direz en aparté. Je ferai l'article après.
Alors, je me suis retrouvé finalement avec les 4 millions d'euros. Enfin, l'équivalent, plus exactement. Et les 4 millions de francs, plus exactement. Et puis là-dessus, il y a eu une grande fête des amis américains de Versailles, à Versailles, et à cette occasion-là, j'ai montré l'emplacement de la commode à Madame Chirac, en lui disant, nos amis Pinault sont ici, vous savez, j'aimerais bien qu'on l'achète, mais vous allez voir qu'elle va faire 500 000 francs de plus que ce que nous avons, et si ils avaient la gentillesse de m'aider pour cette somme-là, eh bien je ferais comme dans le compte de Maupassant, je travaillerais jusqu'à la fin de ma vie pour pouvoir les rembourser. Madame, mais je préférais que ce soit vous qui leur demandiez que moi, parce que ça aura quand même plus de poids. Elle me dit, bien entendu, c'est ce qu'elle a fait. François et Marie-Vanne Pinault ont dit oui. La commode est passée en vente, elle a fait 8 millions au lieu de 4. Et je dois dire qu'ils ont donné le double. C'était un cadeau absolument merveilleux. Et voilà, donc c'est un très bon souvenir, parce que ça a été une longue bagarre.
Vous parliez également des amis américains de Versailles. Quels sont les liens entre les amis de Versailles et les amis américains de Versailles, et est-ce que il y a toujours cet intérêt des Américains pour Versailles?
Alors il y a une très grande tradition de liens divers entre Versailles et les États-Unis. Ça a d'abord commencé par Benjamin Franklin venant réclamer de l'argent français, l'obtenant et obtenant de le rembourser, ce qu'il n'a jamais fait.
Comme vous, finalement, parce que vous avez dit que vous passeriez jusqu'à la fin de vos jours.
Que vous absolument.
Vous n'avez pas remboursé.
Non, on ne me l'a pas demandé. Pour être tout à fait franc. Bon. Oh, j'ai dit. Bon. Donc Benjamin Franklin, puis alors, après la guerre de 14, c'est-à-dire en 1923, même avant, je crois, John D. Rockefeller, le fils du fondateur de la dynastie, vient à Versailles, vient en France, est effondré de voir la France dans un état pareil, et écrit une lettre, je veux dire, magnifique au président de la République, en disant les trésors de l'art dans le monde appartiennent au monde entier. Et si il y a une difficulté pour ceux qui en sont les détenteurs à les sauver, le reste du monde doit venir à leur secours. Je tiendrai à grand honneur que vous acceptiez que je vous aide à restaurer Versailles. C'est ce qu'il a fait, et pendant de 1923 à 1936, il a donné des sommes considérables qui ont permis de refaire tous les toits de Versailles, une partie du hameau de Trianon, quelques bosquets, etc. Ça, ça a été la deuxième, je veux dire, le premier très grand geste des Américains, enfin d'un Américain, qui, à mon avis, n'est pas assez connu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ayant eu le plaisir et l'honneur de promener son fils, le fils de celui-ci, qui était là quand il a fait ce don, qui m'a raconté comment il s'était promené sur les toits de Versailles à 12 ans, je lui ai dit, mais je ne sais pas si vous avez... Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire du monde que quelqu'un a dit ce qu'a dit votre père, c'est-à-dire qu'il fallait venir au secours des œuvres d'art du monde qui appartenaient au monde entier. Pour le Rockefeller, c'est une parmi beaucoup d'autres de leur générosité. Mais celle-là me paraît remarquable. Et puis alors, après la guerre de 40, au moment où il y a eu cet énorme effort en faveur de Versailles, Gérald van der Kemp ayant une femme américaine, celle-ci a eu la technique pour faire appel aux riches américains. Alors on en a énormément parlé. Ils ont beaucoup donné, très généreusement, mais est-ce qu'on peut le dire ou pas le dire? Il est bien évident que tous ces dons américains cumulés ne représentent pas plus de 1% des sommes qui ont été mises à Versailles à cette époque-là. Mm-hmm. Ce sont quand même les l'État français qui a fourni le plus gros d'efforts, et également beaucoup d'Européens, ce qui est plus ignoré.
Alors, nous allons parler... Non,
je ne pourrais comme pas tout à fait répondre à votre question. Donc, tout ça avait été un peu tombé, et j'ai refondé une société américains quand je suis arrivé, et j'en ai eu, un extrêmement grand plaisir, et nous avons lié des amitiés qui durent encore et qui sont très solides.
Les nouvelles très très brèves.
Donc des brèves, très brèves. Le tableau de Georges Bellot de la National Gallery de Londres, dont nous avions parlé, a été acquis avec de l'argent en grande partie donné par les Américains de la National Gallery. Justement, nous revenons aux Américains, qui souhaitaient que cela serve à acquérir un tableau américain. Cela répond un petit peu aux critiques que je formulais et que certains ont formulées ici, mais je sais également en Angleterre, disons, est-ce qu'il fallait vraiment payer un tableau aussi cher? Il a été acheté 25 millions de livres, je crois, pour enrichir la National Gallery d'un tableau qui n'est pas vraiment... complètement dans la tradition de ces achats. A priori, ce tableau n'aurait pas pu être acheté sans les Américains, et les Américains n'auraient pas voulu acheter un tableau qui ne soit pas américain. Il reste néanmoins qu'une partie vient également du fonds de Jean-Paul Getty, donné à Alain Chalgari, et qu'on ne se rappelle pas que ce fonds soit assorti d'une telle condition. L'argument est donc en partie recevable, mais pas seulement. À propos de la National Gallery, signalons que nous sommes allés, il y a 2 ou 3 jours, voir l'exposition véronaise, qui est une merveille, je le dis, je le décrirai. Je conseille à tous ceux qui écoutent cette émission et à tous les lecteurs de la Tribune de l'Art de se rendre à Londres. Même pour ce prétexte, ça suffirait, ça vaut le voyage. Il est toujours plaisant de se rendre à Londres, mais cette exposition est vraiment magnifique parce qu'on y voit les plus beaux tableaux de Véronèse, de très grands tableaux, bien accrochés. En plus, ils ont été mis dans les salles en hauteur, c'est-à-dire qu'on a la lumière zénitale qui rend complètement justice à l'artiste qu'on avait vu en France dans une seule rétrospective qui était celle du Luxembourg, qui était extrêmement mauvaise, Véronèse profane. Et vraiment, ça fait plaisir de voir une exposition véronèse de cette qualité. Néanmoins, encore une petite critique contre la National Gallery, pour laquelle nous avons la plus grande admiration, mais qui de temps en temps fait des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Sachant qu'une exposition a lieu également dans les sous-sols, là où la National Gallery organise en général ses expositions, consacrée aux maîtres de la Renaissance allemande, mais ces maîtres de la Renaissance allemande, en fait, sont ceux de la National Gallery, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer différemment les œuvres appartenant au musée. Pourquoi pas ? On peut toujours faire des expositions autour des collections des musées, mais cette fausse exposition qui comprend quelques-uns des chefs-d'œuvre du musée, prenons un exemple, les ambassadeurs de Holbein se trouvent dans ce sous-sol, le Saint Jérôme de Dürer, des Hans Baldungrien, énormément de tableaux en fait importants. Cette exposition donc a pour particularité de rendre une partie des collections permanentes payantes, puisque l'entrée de cette exposition, qui n'en est pas une, est à 8 livres. Or, rendre les collections permanentes de la National Gallery payantes est une chose qui est strictement interdite par notamment les conditions de la donation de Denis Mahon, qui avait imposé, lors de la donation de ces tableaux, que la National Gallery reste gratuite. Donc, bien sûr, la National Gallery est gratuite, c'est une exposition qui est payante, mais avec quelques-uns des chefs-d'œuvre de la National Gallery. C'est un petit peu discutable, je trouve. Voilà, ça peut se discuter en tout cas. Ce matin, je suis également allé à la Cité de la Céramique à Sèvres, où on nous présentait une chose tout à fait extraordinaire qui donnera lieu également à un article. 109 terres cuites qui servaient de modèle, des terres cuites du XVIIIe siècle, qui servaient de modèle pour créer les biscuits par les plus grands sculpteurs, notamment ceux qui ont travaillé effectivement à la manufacture, Falconet, Boiseau, etc. Donc ces 109 terres cuites qui avaient été abîmées, en partie cassées par le bombardement qui avait en 1942 frappé les alentours du musée, et qui était également très sale, enfin qui n'avait jamais été montré depuis, sauf quelques pièces dans l'exposition Falconet. Ces 109 terres cuites originales sont en cours de restauration. C'est absolument remarquable, il y a des sculptures sublimes qui feraient la gloire des plus grands musées. Donc c'est vraiment une redécouverte, parce que elles étaient connues des spécialistes, comme nous l'a dit Guillaume Scherf, mais pas très connues. Et l'année prochaine, il y aura une exposition de ces terres cuites, restaurée en partie donc grâce à la Fondation PNP Paribas, qui a donné 150 000 euros, et ces terres cuites seront présentées à côté de des biscuits auxquels elles ont donné lieu, des moules, etc. Donc ça sera vraiment l'exposition qu'il faudra voir dans un an. En tout cas, rien que la restauration, avec quelques photos amusantes et un petit reportage audio que nous avons pu faire sur place, seront mis en ligne très rapidement sur la Tribune de l'Art. Passons maintenant à deux nouvelles patrimoniales, un peu tristes une fois de plus, malheureusement, le patrimoine ne va pas très bien, nous en parlerons certainement tout à l'heure avec le président de la sauvegarde de l'art français. Sachant que le ministère de la Culture, nous ferons également un petit article et nous publierons la lettre qu'a envoyée le ministère de la Culture à l'association Paris Historique qui demandait le classement de la poste du Louvre. Le ministère de la Culture a refusé de classer cette poste du Louvre, qui est pourtant un chef-d'œuvre du 19e siècle de l'architecture métallique. Et les arguments donnés par le ministère sont lamentables, on ne peut pas dire autrement, sont consternants. On le développera dans un article. Mais parallèlement, la ministre de la Culture, comment s'appelle-t-elle déjà ? Aurélie Filippetti, c'est ça, oui. Aurélie Filippetti est active, puisqu'elle a décoré il y a 1 ou 2 jours des Arts et Lettres, les Chacapunk. Voilà, les Chacapunk ont été décorés des Arts et Lettres. C'est vrai que c'était très urgent. Les Chacapunk chantent en anglais. Les Chacapunk sont très sympathiques. Pas de problème, mais est-ce qu'il fallait vraiment décoller Chacapunk et ne pas classer la poste du Louvre ? Réellement, la politique de Aurélie Filippetti est consternante et on se réjouit qu'elle parte bientôt, en tout cas on l'espère. Restons à Paris avec les descendants de Jean-Camille Formigé, l'architecte des Serres d'Auteuil, qui vont entrer en lice dans le conflit que opposent les associations et la Fédération française de tennis et bien sûr la mairie de Paris. Il faut savoir que sur les serres d'Auteuil, Jean-Camille Formiger a créé les serres, bien sûr, mais il a également créé le jardin. Il est architecte de l'ensemble. Et il est difficile de dire que ce jardin ne va pas être dénaturé. D'ailleurs, un certain nombre d'associations et de spécialistes expliquent, bien entendu, qu'il va être dénaturé. Or, curieusement, lorsque l'on veut détruire un monument, le droit moral n'intervient pas. Mais, quand on altère un monument, le droit moral fonctionne. Selon l'AFP, que je cite, « Au ministère de la Culture, on prend leur appel au sérieux, car les descendants pourraient attaquer en tant que gardiens du droit moral de l'œuvre. » Eh bien oui, les descendants ont un droit moral sur l'œuvre de leur ancêtre, et c'est une bonne nouvelle pour les serres d'Auteuil. On peut espérer que ce sera un nouveau front judiciaire qui va s'ouvrir contre la FFP et contre la ville de Paris, et évidemment, il y a tout lieu de s'en féliciter. Je me retourne à nouveau donc vers Olivier de Rohan. La sauvegarde de l'art français, dites-nous alors ce qu'est cette association, une des grandes associations de sauvegarde du patrimoine, mais quelle est votre spécificité par rapport à celle qui existe à côté?
Je vais vous répondre tout de suite, mais si vous permettez, juste un mot.
Bien sûr, n'hésitez pas à intervenir
sur ce que vous venez de dire.
Sur les serres d'Auteuil, éventuellement.
Non, mais trois choses. Alors, d'abord, je regrette que le prix de l'Eurostar soit aussi cher. Ça décourage malheureusement d'aller voir des expositions.
Alors, on peut les voir quand même si vous prenez vos billets maintenant pour dans 2 ou 3 mois. On a des billets à 70 euros l'aller-retour.
Ah oui, ça vaut le coup.
Donc il faut le prendre maintenant, puisque l'exposition vient de commencer, l'exposition véronaise, et donc on a un petit peu le temps de 70 euros, c'est pas très cher. Voilà. Vous faire l'aller-retour dans la journée, ça vaut le coup.
Voilà une information fort intéressante. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne la générosité des Américains. Nos amis américains sont extrêmement généreux. Seulement, ils sont comme tout le monde, personne ne fait rien pour rien. Et les Français sont persuadés que le Père Noël existe et que les Américains n'ont qu'une idée, c'est d'ouvrir leur portefeuille pour eux. Permettez-moi de dire, je vais aller chercher de l'argent aux États-Unis, il faut s'expliquer. C'est pas évident. Voilà, ils le font, on l'obtient. Il faut surtout pas faire la quête. Alors là, c'est ridicule. Je veux dire, la France n'est pas au lendemain d'une guerre épouvantable. Donc aujourd'hui, nous sommes ridicules si nous faisons la quête. Non, il faut les passionner, il faut les intéresser, il faut leur montrer qu'ils en retireront un plaisir ou de la gloire ou que sais-je. Mais voilà, enfin, je ferme cette parenthèse, pardon.
Troisième chose sur les serres d'Auteuil.
Troisième chose sur les serres d'Auteuil. Sur les serres d'Auteuil, il se trouve que je, en tant que membre de ce qu'on appelle le G8, j'en entends parler par mes collègues.
Alors le G8, expliquez-nous ce que c'est, parce que peut-être
le G8, ce sont les 8 principales, et qui sont devenues 7 associations patrimoniales en France, qui se réunissent régulièrement, une fois par mois, pour échanger des informations sur ce qui se passe et éventuellement se rendre des services mutuels ou avoir une position commune. Donc voilà, les vieilles maisons françaises avec Monsieur Toussaint, Alexandre Gadi, à l'SPPEF.
Qui était invité de cette émission il y a quelques semaines.
Ont pris des positions très, 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 très courageuses, vigoureuses et intelligentes. Mais moi, ce qui m'apparaît, c'est que, comme très souvent en France, on a l'impression que des décisions sont prises avant qu'on ait fait le tour du problème. C'est ça qui me navre, c'est que quelquefois on est obligé de partir en guerre, alors que si on avait pris le temps de regarder les choses un petit peu plus haut, ce qui semble être le cas, là on aurait pu trouver d'autres solutions que celle d'une destruction pour faire ce que l'on avait envie de faire. Enfin, j'en dirai pas plus.
Très bien. Alors dites-nous un mot de la sauvegarde de l'art français. Quelle est la spécificité donc de cette association?
La sauvegarde de la France est une association qui a presque 100 ans, qui a été créée en 1921, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de 14, où la France souffrait de nombreuses destructions, et où on était à l'époque assez peu soucieux de la conservation du patrimoine, il faut bien le dire. Et c'est le duc de Trévise, le dernier descendant du maréchal Mortier, qui a lancé cette association pour sauver tout ce qu'il pouvait en matière patrimoniale. Et je dois dire qu'il a fait un travail absolument fabuleux entre 1923 et 1940. Il est parti au Maroc, dans tous les domaines. Enfin, je veux dire qu'il a empêché beaucoup de cloîtres de déménager vers les États-Unis. Et ce qui est plus amusant, en demandant aux Américains l'argent pour les racheter. Ce qui était quand même pas mal. Il a également était à l'initiateur des lois d'interdiction de sortie des œuvres d'art. C'est lui qui a fait ce qu'on appelle aujourd'hui le lobbying pour que les députés votent cette loi. Et il est responsable de bien d'autres succès, comme le maintien des cartons des tapisseries de Beauvais qui étaient menacés de disparaître, la bastide de la Rossingle, il a réussi à sauver complètement. Enfin, bon, la maison Filandrier. À Châtillon-sur-Saône, qui a été racheté par la sauvegarde, dont nous sommes toujours propriétaires. Enfin bref, 1000 choses. Et puis, il avait une collaboratrice qui était Aliette de Rochambeau, qui avait la chance d'avoir une grosse fortune et qui a pris sa suite, et qui, quand elle est morte en 1972, elle a laissé la plus grosse partie de sa fortune à la sauvegarde de l'art français, en demandant qu'elle soit employée de préférence, pas exclusivement, mais de préférence, au sauvetage des églises rurales, bâties entièrement au XVIIIe siècle, car pour une femme de sa génération, après le XVIIIe siècle, il n'y avait plus que des horreurs, si possible, à condition qu'elle ne soit pas classée monument historique, car également pour
une inscrite, femme... Inscrite, c'est inscrite non plus.
De préférence inscrite.
Ah, d'accord,
si,
inscrite,
c'est elle les préférait belle que laide, mais pour elle, si c'était classé, c'était sauvé.
D'accord.
Malheureusement, les choses ont évolué, et aujourd'hui, il faudrait trouver de l'argent pour aider des églises classées, et là, malheureusement, je ne peux pas, comment dirais-je, faire appel aux fonds Maillet. Ces fonds Maillet nous permettent, oui, elle était marquise de Maillet, ces fonds Maillet nous permettent de donner chaque année, depuis 40 ans, l'équivalent d'un million d'euros par an. Bon, vous me direz, c'est beaucoup, mais je vous dirais que si vous comptez 60 000 églises et chapelles en France...
J'allais dire, c'est pas beaucoup, finalement, parce que
vous mettez 5 000 euros pour chaque église et chapelle.
C'est bien, mais c'est pas...
Vous voyez qu'il manque un nombre considérable de zéros au bout de mon million. Mmh. C'est 100 millions minimum qu'il faudrait pouvoir mettre chaque année, même plus que ça. Bon, alors, la tâche est gigantesque, et ce qui est plus effrayant, c'est que cette tâche gigantesque, elle est, pas seulement en France, c'est toute l'Europe qui est confrontée à cette tâche, de l'Angleterre jusqu'à Malte, et de Brest jusqu'à Vladivostok. Donc ce sera, à mon avis, un des très très grands problèmes, pas seulement à mon avis d'ailleurs, à l'avis de beaucoup de gens, un très très grand problème dans les 50 prochaines années.
Et un problème qu'on essaie de traiter sur la tribune de l'art, parce qu'il y a effectivement maintenant des églises qu'on détruit.
Alors je tiens...
Elles sont du 19e, donc peut-être qu'elles...
Moi elle m'intéresse, j'ai lancé...
C'est bien, alors je parlais de votre bienfaitrice.
Je ne peux pas trouver cet argent, je cherche de l'argent. Et je dois dire, je tiens à vous rendre hommage, parce que effectivement, s'il y a actuellement une campagne qui commence à poindre pour sauver les églises de Paris, qui sont dans un état effrayant, scandaleux, vous y êtes vraiment pour beaucoup.
Alors là, je vous remercie.
Oui, c'est pour l'hôtel de la Marine, dont nous parlons tout à l'heure.
On parlera de l'hôtel de la Marine. Alors, parlons maintenant d'une opération qui est vraiment en cours, là, qui est distincte de votre autres occupations. C'est le plus grand musée de France, dont j'ai déjà parlé sur la tribune là. J'ai rencontré, alors je rappelle, rappeler dans deux mots de quoi il s'agit, sachant que j'ai rencontré le président de l'association des juniors, de la junior entreprise de l'école du Louvre, son prénom m'échappe.
Léopold
Legros, qui cherchait à Maastricht du financement. Alors, expliquez-nous ce que vous faites avec ça, et est-ce qu'il a trouvé du financement à Maastricht?
Alors, bon. À l'origine, l'idée était que pour trouver de l'argent pour les églises, il faut être connu. Bon, nous, notre association a toujours pratiqué la charité chrétienne. Nous avons donné beaucoup sans le dire. Alors, je cherche aujourd'hui un moyen de nous faire mieux connaître pour que les gens sachent que s'ils nous donnent de l'argent, il sera bien employé. Deuxième chose, aujourd'hui, les entreprises hésitent beaucoup à donner quand il s'agit d'une église. D'abord parce que s'il s'agit de Saint-Culfa sur un Vézère sur je sais pas quoi, ça n'apporte pas une très grande entreprise la visibilité qu'elle recherche. Mais surtout, aujourd'hui, quand on restaure une église, il faut restaurer en même temps une mosquée, une synagogue et que sais-je encore. Or, il y a 60 000 églises et il n'y a pas 60 000 mosquées. Donc, c'est très difficile. Alors, nous avons pensé attaquer la chose par le contenu plutôt que par le contenant, parce que bon, c'est moins cher et c'est plus, ça rassemble plus. Et nous avons donc lancé une opération intitulée « Sauvons le plus grand musée de France, les trésors de nos communes ». Voilà, on reste dans une laïcité tout à fait honorable.
On parle donc effectivement des objets des églises qui sont des milliers, des centaines de milliers.
Centaines de milliers.
Et des œuvres souvent magnifiques et parfois laissées dans l'abandon par leurs propriétaires qui sont les communes en fait.
Et oubliées, méconnues, etc. Et alors la chance a voulu, n'est-ce pas, que je rentre en relation avec la junior entreprise de l'école du Louvre. Je les ai rencontrés à l'occasion d'une exposition, ils sont venus à moi, ils m'ont dit, écoutez, on aimerait vous rencontrer, etc. Bon, nous avons fait affaire, et je dois dire que leur enthousiasme, d'une part, leur professionnalisme, d'autre part, m'ont à la fois séduit et était très très bienvenu, et ils ont lancé cette opération il y a un an, ils ont eu un bon succès médiatique.
Il y a beaucoup d'articles, on en voit très bien. Beaucoup, vraiment.
C'est
dans populaire. Beaucoup dans la presse régionale, mais également dans la presse nationale, et c'est vraiment quelque chose qui finit par, et qui joue comme... Tous ces genres de campagnes, ça finit par sensibiliser les gens à ça.
Alors espérons-le, parce que, n'est-ce pas,
est-ce qu'ils ont trouvé l'argent d'abord? Est-ce qu'ils trouvent l'argent?
Non, d'abord, la première chose, c'est de trouver des œuvres.
Oui.
C'est de trouver des œuvres, ce qui n'est pas évident. Alors,
pas trop.
Oui et non, parce que, n'est-ce pas, parmi les œuvres qu'ils trouvent en très mauvais état, beaucoup de spécialistes et des gens très éminents disent, mais comment? Mais nous les connaissions déjà. Oui, certes, eux les connaissaient, mais les autres ne les connaissaient pas. Et une œuvre d'art est toujours à redécouvrir, c'est pas à vous, je le dirais. Et si elle n'est connue que de 3 personnes, ben, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner aux Français, au plus grand nombre possible de Français, la connaissance de ce qui mérite d'être vu et l'envie de le voir. Voilà. Donc c'est un des buts de cette campagne, c'est un des premiers buts, c'est d'obtenir des articles de journaux qu'ils obtiennent pour donner aux gens l'envie d'aller voir. Bon, maintenant il faut trouver de l'argent. Mais ça, à mon avis, trouver de l'argent, c'est la conséquence de la première chose.
Alors, je reviens à ma question. À Maastricht, est-ce qu'ils ont pu trouver un peu d'argent ou pas? Ce qui n'est pas grave, parce que finalement, oui. ils ont trouvé.
Oui, et je vais vous dire, d'une personne que je connais, parce qu'ils étaient en train d'attaquer sauvagement une pauvre galeriste, n'est-ce pas, qui d'ailleurs savait très bien se défendre, qui s'est bien défendue, et il y avait une dame qui écoutait ça, et qui les a trouvés très sympathiques. Donc elle m'a dit, je trouve qu'ils sont un peu, comment dirais-je, ils y vont fort, mais je les trouve rudement sympathiques, et je vais leur envoyer un chèque, et c'est un beau chèque.
Très bien, parfait, d'accord, tant mieux. Alors, nous verrons ensuite, il y a d'autres, on verra que vous avez eu d'autres combats, dont par exemple l'hôtel de la Marée, mais nous en parlerons après ça. La revue de presse. Alors, une revue de presse qui va commencer par un article du Monde. Je mettrai bien sûr, comme d'habitude, les liens sur la page qui héberge cette émission. Alexandrie ensevelit ses trésors sous les gravats. La destruction de l'hôtel Aiguillon. Auguste Perret, voilà, exactement, merci. Donc Auguste Perret, une villa déco construite à Alexandrie, a été détruite. Ça a été repris ces derniers jours, notamment par Le Monde qui a enquêté, et qui a montré que Alexandrie perd une grande partie de son patrimoine en ce moment, et qu'ils estiment que dans l'année qui vient, 10% du patrimoine d'Alexandrie va être détruit par les promoteurs. C'est une des conséquences, hélas, de la révolution égyptienne, risque d'être absolument catastrophique une fois de plus pour le patrimoine. Deuxième article, Paris vaut bien un débat. C'est un débat qui est organisé par Paris Match, qui regroupe 3 architectes, Dominique Jacob, Brendan McFarlane et l'inénarrable Jean Nouvel, qui devient de plus en plus, je dois le dire, je suis désolé de le dire, insupportable. On peut être un grand architecte et être d'une prétention insupportable, et c'est le cas dans cet article. Jean Nouvel, je vais citer 2 ou 3 phrases de Jean Nouvel parce qu'elles sont vraiment extraordinaires, il faut vraiment l'entendre pour le croire. Et il parle d'ailleurs de l'hôtel de la Marine sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Le cas de la polémique sur l'hôtel de la Marine est intéressant. On va y loger la Cour des comptes, c'est bien. Mais enfin, il ne va pas s'y passer grand-chose. Ici, tout est un peu figé depuis des décennies à cause notamment des réglementations. Ah, ces fameuses réglementations. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas déréglementer à tout va. Jean Nouvel pourrait construire peut-être à la place de l'hôtel de la Marine, qui sait. Autre phrase de Jean Nouvel, moi, oui, c'est évidemment, il commence par lui. Moi, ils m'ont sollicité pour construire sur le chevet de l'église Saint-Paul, un bâtiment de bureau. Il parle de Londres. Un bâtiment de bureau avec un centre commercial qui touche presque l'édifice. Vous imaginez cela près de Notre-Dame? Donc, ce monsieur Jean Nouvel, qui est un architecte certainement très intéressant, prend l'exemple de l'église Saint-Paul à Londres, qui est une des catastrophes urbanistiques les plus évidentes de la ville, de la capitale anglaise. Et effectivement, imaginons près de Notre-Dame un grand bâtiment de Jean Nouvel, on préfère pas imaginer en fait. Je cite encore de Jean Nouvel. Quand on est un architecte parisien, on a envie de construire à Paris. Moi, en 40 ans, j'ai pu y réaliser un bâtiment tous les 10 ans. C'est déjà bien, mais c'est quand même peu. Le pauvre Jean Nouvel qui n'a construit qu'un bâtiment tous les 10 ans, en 40 ans. Finalement, on n'a que 4 bâtiments de Jean Nouvel à Paris, c'est quand même très dommage. Voilà, donc ça c'était un article, excusez-moi, je fais un petit peu d'humour. Je ne conteste pas le talent de Jean Nouvel comme architecte, quoique ses constructions vieillissent quand même très très mal, et un architecte devrait peut-être penser au-delà de 10 ou 20 ans. Un article dans Libération, signé Laure Ecky et Pascal Nivelle, un Paris plus nature que vrai. J'y renvoie parce que l'article est assez bon et il montre quelques-unes des idées. Je dis idées parce que on utilise ce terme habituellement, mais enfin, venant d'Anne Hidalgo, c'est pas très bien vu, mais bon. Et également des idées d'aménagement de Paris. Alors, je préfère pas en parler ici parce que sinon, ça va encore m'emmener trop loin. Et également des idées de NKM. Et là, c'est pas plus des idées que pour Anne Hidalgo. Il faut bien le reconnaître. Hélas. C'est vrai que le débat à Paris, peut-être que je poserai la question à notre invité, le débat à Paris sur la culture et le patrimoine est assez consternant. Je lis une phrase de cet article que je trouve très drôle et très juste. Ces projets, il parle donc des projets urbanistiques, notamment de ceux d'Anne Hidalgo, un petit peu moins de ceux de NKM, mais aussi, ces projets vendus à l'horizon 2020 ou 2030 deviennent presque réels grâce aux images de synthèse, souvent peuplées de jeunes gens minces et beaux. Les lecteurs se projettent dans les villes idéales proposées par leur candidat comme il achèterait un appartement sur plan. Tout est dit. Je me retourne vers vous, Olivier Rouen. Donc, j'étais un petit peu, grinçant dans cette revue de presse. C'est vrai que faut mieux des fois rire que pleurer de toutes ces bêtises. Sur l'hôtel de la Marine, donc Jean Nouvel regrette évidemment qu'on n'a pas pu, je ne sais pas ce qu'il voulait y faire, mais enfin bon, il regrette en tout cas qu'on ne l'ait pas appelé, et en tout cas si on l'y avait appelé, il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait. L'hôtel de la Marine, donc, alors je vais nous jeter des fleurs cette fois-ci, vous m'en avez jeté tout à l'heure. C'est vrai que pendant un ou deux ou trois ans, il y a eu très peu de bagarres sur l'hôtel de la Marine. C'était finalement, on pensait tous que le projet allait se faire, parce que le ministère de la Culture, évidemment, c'était tout. Je dois signaler, Vincent Noz dans Libération a fait énormément d'articles, j'ai fait énormément d'articles. Vous étiez, en tant que président des Amis de l'hôtel de la Marine, aussi très actif en lobbying, et finalement, on a réussi, par miracle, je dirais, presque par miracle, parce que tout d'un coup, ça s'est déclenché, on a réussi à gagner cette bataille.
C'est pas tout à fait par miracle. Ceci dit, permettez-moi un commentaire sur vos propos précédents. On peut pas s'empêcher de rire en vous écoutant. J'imagine que vos victimes elles-mêmes doivent sourire en vous écoutant.
Je ne pense pas, non.
Vous ne pensez pas ?
Non. Oh. J'espère qu'elles ne rient pas, en tout cas. Les autres rient, oui.
En tout cas, les autres sûrement. Bon, mais non. Les choses sont passées de la façon suivante. Nous avions, et c'est souvent pareil en matière patrimoniale. On fait le bois. On essaye de voir tous les gens qui pourraient être de votre avis, etc. On développe tous les arguments et il ne se passe rien. Puis il y a un moment où la masse critique est atteinte, et là nous l'avons atteint quand une journaliste tout à fait remarquable, qui s'appelle Caroline Pigozzi, est allée voir Monsieur Valéry Giscard d'Estaing en lui demandant s'il pensait que tout le tintouin que nous faisions ensemble était raisonnable. Et il a dit, mais bien sûr, c'est formidable, c'est ça qu'il faut faire, c'est scandaleux de vouloir ça. Alors évidemment, du coup, la presse, la grande presse s'en est emparée, et a dit, si Monsieur Valéry Giscard d'Estaing prend au sérieux Monsieur Rickner, Olivier Rouen et quelques autres, c'est vraiment sérieux. Et il y a eu un véritable retournement à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes les télévisions, les presses, etc. se sont emparées, et...
Mais des fois, ça ne marche pas. Par exemple, les serres d'Auteuil, il n'y a aucun retournement, très bizarrement, ça ne marche pas.
Il n'y a pas eu, justement, de personnes célèbres qui dit c'est scandaleux. Vous auriez, je ne sais pas moi, un grand tennisman mondial qui prendrait position en disant je suis contre, le tennis ne mérite pas qu'on massacre des Serbes, et vous verriez le lendemain, ça ferait la première manche des
journaux. C'est une piste à creuser.
Voilà. Mais en tout cas, nous avons eu de la chance parce que le président Sarkozy, n'est-ce pas, je crois que c'était à l'occasion de ses voeux à la presse, a dit, bah, écoutez, je m'étonne, n'est-ce pas, de l'opposition qu'il y a, et je vais nommer une commission. Alors là encore, par une succession de hasards extrêmement amusants, c'est lui qui a été chargé de présider la commission, et elle a conclu au fait que, bien entendu, avec des gens très illustres, comme M. Fumaroli, enfin des gens tout à fait importants, et ils ont conclu au fait que, bien entendu, il fallait que tout ça reste au sein de l'État, ce qu'a confirmé M. Hollande. Donc aujourd'hui, nous savons que ce palais national reste, depuis l'origine, restera ce qu'il a toujours été.
Et donc il sera confié donc au Centre des Monuments Nationaux, finalement, plutôt qu'au Louvre, comme c'était prévu au départ, qui va, j'espère en tout cas, le traiter de manière assez modérée, parce qu'en fait, il faut simplement faire des visites, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, finalement.
Aujourd'hui, je crois, parce que chacun peut avoir son opinion, la mienne est la suivante. Les appartements, le premier étage, a été fait pour des réceptions depuis l'origine. C'était le principal usage de ce lieu, des réceptions et des expositions. Les deux à la fois. Ça l'a été du temps du garde-meuble, ça l'a été tout autant, un peu plus encore, du temps du ministère de la Marine, et même lorsque c'était seulement l'état-major de la Marine qui était là. Vraiment, il y a eu d'énormes réceptions, très grandes réceptions. Il y a trois endroits magnifiques pour recevoir à Paris, il n'y en a pas quatre. Il y a l'hôtel de ville, il y a le Quai d'Orsay et il y a l'hôtel de la Marine. Ce n'est pas de trop pour la capitale de la France. Bon. Donc il faut que ça reste, et il faut également, il faudrait, il est plus que souhaitable, que ce lieu conserve son mobilier, qui est très beau, et qui est surtout un mobilier de famille. C'est très rare, n'est-ce pas, en France, parce que avec les lois successorales, il n'y a plus de demeures privées qui sont mobilier, et quant aux demeures d'État, eh bien, comme Versailles, ça a été dispersé à la Révolution. Donc c'est rarissime en France d'avoir une maison qui est son meuble. C'est le cas là, il faut absolument que ça demeure. Quant au reste, ça a toujours été des bureaux, eh bien, il faut que ça le redevienne, c'est tout.
Très bien. Et pour la mairie de Paris, est-ce que vous suivez un peu la campagne assez désastreuse, malheureusement, de NKM, qui était la seule possibilité de nous débarrasser d'Anne Hidalgo, mais elle est désastreuse, c'est vrai, sa campagne de NKM. Malheureusement, je crains que cela soit plié. Je ne fais pas de politique, je le répète toujours. Je soutiens dans d'autres villes, et je m'oppose dans d'autres villes à des maires UMP. Là, je ne suis pas spécialement enchanté par NKM. Je crains que ça ne soit la seule possibilité pour battre Anne Hidalgo, qui, malheureusement, est sur une pente assez fatale de destruction des principales places de Paris, il faut quand même le dire. Alors, savez-vous, par exemple, je pense que vous ne l'avez pas entendu, qu'elle veut, par exemple, mettre des arbres sur la place de Panthéon, qui est une place minérale. La place de la République, par exemple, vous en pensez quoi?
Bon, alors,
le soupir dit tout.
Non, mais je suis un Breton, donc vous comprenez, je monte à la capitale, mais je n'y vote pas.
Oui, vous pouvez vous exprimer tout à fait librement.
Donc je souhaite qu'elle soit le plus belle possible. Bon, alors, on ne peut qu'être évidemment contre des absurdités comme de transformer des espaces minéraux en espaces végétaux.
Ou l'inverse, puisque c'est ce qu'on veut faire. Les serres d'Auteuil, c'est l'espace végétal qu'on veut transformer en minéraux.
Ou l'inverse, je veux dire qu'il faut quand même respecter la volonté des gens qui ont conçu une œuvre d'art et ne pas la dénaturer. Voilà. Bon, écoutez, la seule chose que je connais, c'est ce projet pour l'avenue Foch, mais il me paraît tellement délirant que j'ai peine à vouloir m'en inquiéter, parce que c'est absurde. Enfin.
Oui, c'est absurde, mais malheureusement, des fois, on voit des choses un peu... Enfin bref, on verra.
Gardons l'espoir.
Effectivement.
Livre.
Alors des livres, beaucoup de livres cette semaine. On va les parcourir très rapidement. D'abord une exposition que j'ai vue, celle-ci, et le catalogue, assez bon catalogue d'ailleurs, celui de l'exposition Joséphine au Palais Luxembourg. Donc là, c'est plus facile d'y aller que d'aller à la foire véronaise. Je trouve que c'est une exposition assez classique, mais très belle, avec de beaux objets. Il y a beaucoup de choses de Madame Malmaison, certes, qui sont présentées, mais également des objets qui viennent de Saint-Pétersbourg, qui viennent d'Angleterre, enfin, qui viennent de certains musées étrangers, étant donné que, évidemment, les collections de Joséphine sont en partie de France. Quels autres livres dire? Alors, nous avons bien sûr notre rubrique ouvrages parus, là je ne parle pas de tous les livres qu'on a reçus. Il y a deux ouvrages qui ont trait à l'art pendant la guerre et au destin des collections pendant la guerre. Alors je pense que c'est en rapport largement avec le film, un petit peu avec le film qui s'appelle Diplomatie, qui montre un dialogue entre von Schultitz et l'ambassadeur danois ou suédois, je ne sais plus, et finalement Paris n'a pas été détruit. Bon, c'est très romancé, suédois. Mais c'est un film suédois, l'ambassadeur suédois. C'est un film qui est plutôt bon, avec de bons acteurs, pas forcément vrai au point de vue historique, mais qui a quand même complètement faux au point de vue historique, mais qui a de certaines qualités. Je n'ai pas encore vu le deuxième film, qui est certainement celui qui a déclenché plutôt l'apparition de ces livres, qui s'appelle Monument Spen. Mais alors, le bouche-à-oreille est absolument désastreux, et apparemment le film est un gros navet. Donc, un premier livre qui s'appelle Rose Vallant, le front de l'art. Donc, Rose Vallant, bien sûr, qui est cette jeune femme qui a sauvé, qui a répertorié toutes les œuvres au fur et à mesure qu'elle passait, parce qu'elle travaillait elle travaillait aux côtés des Allemands, mais évidemment pour résister contre les Allemands, qui faisaient passer toutes les œuvres par l'oranger. Et elle a permis, grâce à ça, de récupérer beaucoup d'œuvres. Donc, c'est un livre que je n'ai pas lu, hein, donc c'est juste édité par la Réunion des musées nationaux. Ça s'appelle Rose Vallant, le front de l'art. En fait, c'est son journal, en fait. La présentation, c'est le témoignage de Rose Vallant lui-même, elle-même plutôt. Donc, c'est un livre, à mon avis, qui doit être tout à fait passionnant. Des carnets également, les carnets de Pierre Chaumer, qui a joué un rôle déterminant, je lis la quatrième de couverture, dans la protection des monuments et œuvres d'art. Et ces carnets. Il faut sauver la Joconde, carnet 1937-1945. Donc, ce sont deux ouvrages de témoignages qui doivent, je ne les ai pas lus, mais qui doivent quand même apporter beaucoup d'informations utiles. Nous avons reçu également des livres de Paris Gramme, qui est un bon éditeur, qui présente beaucoup de livres sur des aspects divers de Paris. Donc, ils ont publié de Gilles Thomas, Les Catacombes de Paris, un ouvrage très illustré, qui fait penser un peu aux découvertes Gallimard, qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux découvertes Gallimard. et un ouvrage qui s'appelle Paris Vestiges, Tour, Fronton, Portail, la mémoire des pierres, et qui s'intéresse en fait, manifestement, aux ruines et aux morceaux d'architecture qui se trouvent dans Paris. Alors, je ne sais pas s'ils en parlent, mais je pense que oui. Rappelons que dans l'école des Beaux-Arts sont les restes de l'hôtel de Torpane. Je dis parfois Tarpane, des fois Torpane, j'ai un petit doute, mais du XVIe siècle, qui est en train de pourrir sur place, qui est un hôtel du XVIe siècle, avec des sculptures magnifiques du XVIe siècle, juste à droite de cet énorme, de cet horrible bâtiment temporaire qui dure là depuis 15 ou 20 ans, qui abrite une école d'architecture à droite du palais des études. Et tout cela est assez lamentable. Mais c'est un ouvrage que je suis en train de feuilleter et qui a beaucoup d'illustrations et qui, à mon avis, va permettre aux lecteurs de découvrir beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Avec voilà, la galerie du rez-de-chaussée de l'hôtel Torpane, évidemment, est reproduit. C'est un livre, bien sûr, il faut le lire pour le critiquer réellement. Mais en tout cas, manifestement, c'est un ouvrage assez bon qui est dû à Ruth Fiori, avec des belles photographies de Gilles Fiori. Je n'ai pas vu l'exposition, elle sort du cadre de la Tribune de l'Art, mais nous avons reçu le catalogue qui a l'air lui aussi d'être une somme tout à fait conséquente et très importante et très intéressante. C'est le catalogue d'exposition Auguste qui vient d'ouvrir au Grand Palais. Et je termine avec un ouvrage, la collection Jean Bonnat, dessin des écoles du Nord du 15e au 18e siècle. C'est le deuxième volume du catalogue des dessins réunis par Jean Bonnat, dont vous vous rappelez qu'une exposition avait eu lieu, une exposition de sa collection avait eu lieu à l'école des Beaux-Arts. Donc c'est un catalogue raisonné, qui lui aussi a l'air, ma foi, tout à fait classique et tout à fait bien. Voilà, donc ça c'était quelques ouvrages que nous avons reçus. Nous mettrons l'intégralité de la liste de ceux que nous avons reçus sur le site. Et puis bien sûr, nous en commenterons certains, ceux qui nous auront pu dire. Pour terminer, je me retourne une dernière fois vers Olivier Laurent. Quelles sont les expositions, alors les livres éventuellement, que vous avez récemment pu voir ou lire et que vous aimeriez recommander à nos lecteurs?
Écoutez,
nos lecteurs ou à nos auditeurs.
L'exposition Joséphine, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques jours sous la conduite de sa commissaire Madame Caude, qui est une personne qui joue un rôle essentiel à la sauvegarde de l'art français. Donc, et c'est une exposition que je trouve extrêmement intéressante parce que elle n'est pas gigantesque, elle est agréable à voir et on apprend quand même beaucoup de choses et on voit beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, finalement.
Elle a un côté, effectivement, très agréable, elle n'est pas gigantesque, comme vous dites. Et des fois, certaines expositions, il y a trop de choses, enfin, et des fois, il manque un choix. Donc, le Luxembourg a cet intérêt qu'il n'est pas trop grand, qu'il a juste la bonne taille, et la muséographie est assez belle, d'ailleurs. Donc, c'est une exposition que j'ai plutôt aimée. Je ne sais pas s'il l'a écrit déjà, mais que Vincent Noce, par exemple, de Libération, n'a pas beaucoup aimé. Je dirais, je n'ai pas encore lu sa critique. Je pense que c'est une exposition qui a vraiment des mérites.
Oui,
en tout cas, qui a beaucoup plus de mérites que des expositions qui étaient organisées avant. Je pense par exemple à Véronèse profane, dont je parlais en entrée, qui est une exposition au Palais Luxembourg, mais qui est vraiment, elle n'était pas là sous la responsabilité de la RMN et qui était vraiment une exposition très mauvaise.
Je trouve que c'est vraiment une de ces expositions qui plaisent aux amateurs parce que ça leur donne à eux-mêmes l'occasion d'apporter quelque chose. La deuxième exposition que j'ai vue également très récemment, c'est le Zurbaran.
Oui, dont nous parlerons, dont Bénédicte Bollier-Saint-Georges, que Bénédicte Bollier-Saint-Georges a vu à Bruxelles et dont elle parlera bientôt.
Et alors, j'ai remarqué en particulier deux tableaux de Zurbaran qui se trouvent dans des églises françaises que personne ne connaît en France, il faut bien reconnaître. Il y en a un qui a été découvert, alors là c'est une bonne découverte, je crois il y a deux ou trois ans, à Etrham.
Oui, donc c'est un tableau dont nous avons...
Superbe église.
Cette découverte qui a été publiée, je crois, dans In Situ et je crois par Pierre Curie, si je ne me trompe pas. En tout cas, nous avons fait à l'époque une petite brève. C'est un peu plus de 3 ans, hein. Mais nous avions fait une petite brève sur la tribu de l'art, c'est un très beau tableau, effectivement.
Il est très beau. Et puis un autre dans une usine près de Langon, dans une église près de Langon. Alors voilà.
Alors je signale aussi qu'il y a un troisième Zurbaran qui, à mon avis, méconnu, si je ne dis pas de bêtises, que ce soit l'église Saint-Médard.
Oui, mais il n'est pas dans l'exposition.
Il n'est pas dans l'exposition.
Il est totalement méconnu, superbe, c'est Saint-François prenant l'enfant Jésus, si j'ai bonne mémoire, mais il n'est pas dans l'exposition. Ainsi que, enfin, il y a d'autres Zurbaran en France. Vous avez le Sainte-Cécile de Chartres.
Oui, il y en a dans les musées, effectivement. Il y en a dans les musées et dans les églises. Donc ça fait partie de... Mais est-ce que des tableaux de Ouistreham et le tableau de Langon sont en bon état?
Très bon état.
Voilà, ils ont donc
plus alors que, justement, nos élèves de l'école du Louvre actuellement sont en train de chercher de l'argent pour un tableau de Hemsbeck qui se retrouve...
Voilà. Oui.
Oui, qui se trouve également dans le coin, je crois, au Calvados.
Un tableau de qui?
De
Van Heemskerk.
Non, Heemskerk, oui.
Oui, c'est ça. Donc pas un espagnol, un nordique du 16e siècle.
Mais qui est une très très grande valeur et totalement ignoré, là, pour le coup.
Est-ce que vous avez vu cette exposition? Alors, également, une exposition qui avait vu également Bénédicte ou Bénédicte Saint-Georges et dont elle nous parlera également bientôt, le trésor de Naples, que je n'ai pas vu, au musée Mayol.
Non, et je le regrette. Et
je pense. Et c'est vrai que le catalogue fait assez envie avec des sculptures baroques en argent, avec des tableaux. Donc, c'est le trésor de San Gennaro à Naples, les joyaux de San Gennaro, donc certainement une exposition, en tout cas le catalogue, elle est assez intéressant. Est-ce que vous voulez, avant de conclure, dire un mot complémentaire sur des projets que vous avez en cours, sur des choses que vous auriez aimé dire par rapport à Versailles, par exemple? On n'a pas beaucoup parlé, par exemple, à Versailles, mais si, j'ai une question que je voulais vous poser, donc j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais ce n'est pas grave.
Oui.
Les restitutions à Versailles, vous en pensez quoi? Les reconstitutions à Versailles. Vous pouvez parler, maintenant, vous n'êtes plus aux amis de Versailles, vous êtes peut-être à l'époque...
Non, mais c'est un sujet auquel je suis confronté en permanence, c'est même le même sujet à Sauvegarde de l'art français. Et ben, y a, en matière de restauration, il y a deux écoles qui sont radicalement opposées. L'une qui dit il faut garder les choses dans l'état où elles sont et figer la marche vers la mort au point où elle en est, sinon c'est une trahison. Et la deuxième, autrement dit, pas de facelifting, et la deuxième qui consiste à dire l'œuvre d'art n'est ce qu'elle est que si elle est comme elle a été conçue et voulue par son créateur.
Il y a peut-être des choses intermédiaires quand même, c'est-à-dire qu'on peut quand même restaurer la restauration tout de même.
Alors voilà, donc il y a une chose intermédiaire parce que je veux dire, refaire l'œuvre telle qu'elle a été voulue par son créateur, c'est toujours faux parce que en fait la pierre n'est plus là, parce que le génie de l'architecte ou des sculpteurs n'est plus là, parce qu'un certain nombre de choses. Donc il y a des proportions à garder. Donc parmi les recréations, il y en a qui sont à mon avis légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Pour une recréation qui me paraît très légitime pour moi, ce serait de remettre la galère royale sur le grand canal de Versailles.
Alors...
parce que c'était là pour distraire, c'est une distraction, ça a toujours été...
Ça serait un faux quand même, elle n'existe plus, donc ce serait un faux.
Mais on la refaisait tous les 5 ans, du temps du roi.
Oui, mais donc, on l'a parfaite depuis un certain temps.
On peut reprendre, on a les plans, il suffit de reprendre. Mais donc, si vous voulez, ça ne me dérange pas.
Je veux dire que si ça ne serait pas très dérangeant, parce qu'effectivement, après, ça
bon, voilà, il faut que ce soit bien fait, mais si c'est bien fait, c'est une évocation intéressant de ce qui se fait. Les modernistes vous diront il vaut mieux mettre une péniche moderne dessus avec un teuf-teuf parce que ça c'est contemporain. Vous pourquoi pas, mais je veux dire, je trouve qu'une belle galère, ça serait de la gueule. Voilà, vos gants.
Et alors, ça c'est un exemple de ce que vous pourriez faire à la page et de ce qu'on ne devrait pas faire.
De ce qu'on ne devrait pas faire, eh bien, disons que...
Les Tuileries, par exemple, j'espère que vous n'allez pas dire qu'il faut reconstruire les Tuileries. Ou le château de Saint-Cloud.
C'est encore plus stupide. Quitte à faire de la peine à des gens que j'aime bien, je trouve ça... Et puis surtout, c'est impossible, c'est grotesque. Comme dit Alexandre Zregadi, on ne remonte pas le temps, sinon il va falloir reconstruire les villes gauloises au sein de Lutèce, et raser le Panthéon pour y remettre un village gaulois. Donc tout ça est absurde. Ce qui est plus important, à mon avis, ce qui est plus sérieux, c'est qu'il y a, dans le cas de Versailles, de l'argent qui peut quelquefois dépenser à des restitutions pas nécessaires, dont on aurait bien besoin, par exemple, pour empêcher les cathédrales de s'effondrer. Voilà.
Très bien. Donc, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde que nous, finalement.
Oui, avec toutes les nuances possibles et imaginables, enfin...
Eh bien, écoutez, tant mieux.
Merci.
En tout cas, merci d'être venu pour la Tribune de l'Art. Donc, nous retrouverons la semaine prochaine, ce sera non pas jeudi, mais mercredi, donc 26, où nous recevrons Olivier Mellet, donc qui est associé directeur, je crois, son titre, au Dallas Museum of Art. Donc, effectivement, Olivier Mellet vient des États-Unis, donc c'est pour ça que nous ferons ça le mercredi. Et la semaine suivante, nous aurons comme invité un autre grand défenseur du patrimoine, et quelqu'un également qui, je crois, s'est battu, en tout cas se bat beaucoup pour le patrimoine, et dans un journal comme le Figaro, c'est toujours utile, c'est Adrien Goes, qui est également historien de l'art, maître de conférence à Paris 4, et romancier également. Voilà. Donc, merci beaucoup, Olivier de Rohan, et nous revenons pour une émission de la semaine de l'art, donc la semaine prochaine, mercredi, à 18h.
C'est moi qui vous remercie.
Bonsoir.